Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous dès maintenant et à jamais. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour ce septième jour de notre séminaire que nous avons commencé le dimanche passé. Nous avons été ensemble pendant toute la semaine. Et le dimanche, nous avons parlé de Dieu dans les débuts de l'humanité, sous le thème général « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est Dieu qui parle et qui s'est adressé aux enfants d'Israël, au peuple d'Israël, qu'il s'est choisi lui-même comme matériel didactique de pouvoir se révéler au monde. Alors ce dimanche, quand on a parlé de Dieu dans les débuts de l'humanité, nous avons vu Dieu surtout dans l'épisode de la chute de l'homme, et nous avons constaté que Dieu, il est celui qui a tout créé. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu, il est le souverain et le redoutable. Dieu à qui nous croyons, c'est un Dieu qui est souverain et Dieu qui fait ce qu'il veut de toute sa création. Le lundi, nous avons parlé de Dieu dans le déluge. Au fur et à mesure que les hommes se multipliaient sur la terre, il y a eu aussi le mal qui s'est multiplié. Et Dieu a dit, « Je me repens d'avoir créé l'homme. » Dieu a regretté d'avoir créé l'homme et il a décidé, il a pris une décision, celle d'exterminer toute la terre. Et là, nous avons constaté que Dieu que nous adorons, il est capable d'exterminer la terre et même les créatures qui n'ont rien fait comme mal. C'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui a mal agi, mais Dieu, il a dit, je veux exterminer toutes les créatures. Mais Noé a trouvé grâce. Noé a trouvé grâce. Et à partir de Noé, l'Éternel a refait la création. A refait la création. Quand Noé est sorti du déluge ou de l'arche, Noé a dit merci à Dieu par le sacrifice. Ce sacrifice que Noé avait fait a poussé Dieu de pouvoir dire je n'exterminerai plus le peuple sur la terre. Et donc, dans cette histoire, nous avons compris que il est possible que lorsque tu fais le péché seul, les conséquences de ton comportement peuvent être aussi subies par ceux qui vous entourent pendant qu'ils n'ont rien fait. Aussi, le bien que tu peux faire peut amener Dieu à prendre une décision de vie pour toute l'humanité. Le mercredi, le mardi, nous avons parlé de Dieu dans la tour de Babel. Dans la tour de Babel, les hommes ont voulu défier Dieu en construisant une tour qui devait aller jusqu'au ciel. Pour se faire un nom, les hommes ont voulu faire le centre de l'humanité à travers la tour. Et ils ont oublié que le centre de l'humanité, c'est Dieu le Créateur, le Dieu redoutable. Et pour montrer que c'est lui le Créateur, l'Éternel a tout chambardé. L'homme est capable de faire quelque chose de gigantesque, mais qui va le détruire lui-même. Ce sont ces hommes-là qui ont subi les conséquences de la destruction de la tour de Babel. Le mercredi, nous avons parlé de Dieu dans la souffrance de Job. Dieu dans sa souveraineté. Il ne peut pas être reconnu seulement comme redoutable pour des gens qui se montrent impurs ou injustes. L'exemple de Job montre que c'est Dieu aussi qui est capable de te témoigner auprès du diable quand il te témoigne positivement. Et nous avons dit que lorsque Dieu te témoigne, il faut savoir que déjà tu es la cible du diable. Quand Dieu te témoigne positivement. Et c'est ça ce que nous voulons. Il faut que lorsque Dieu parle de toi, qu'il parle de toi d'une manière positive. Et tu dois maintenant faire attention parce que le diable aussi, il ne va pas dormir. Job, dans tout ça, il a été fidèle. Il a marché avec Dieu. Il n'a même pas accusé Dieu, le diable. Il n'a même pas accusé les voisins. Mais il est revenu à Dieu lui-même parce qu'il a su que tout ce qui est sur la terre, sous la terre et dans le ciel est sous la direction divine. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous allez reconnaître que Dieu, il est le souverain. Et vous allez même voir sa face et même sa main agir dans toutes les circonstances. Il y a deux grandes parties. Les quatre premiers commandements, ce sont les commandements qui régissent la relation entre l'homme et Dieu. Et les six derniers commandements, ce sont les commandements qui régissent les relations entre les hommes. Quand Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », c'est une relation entre l'homme et Dieu. Tu ne vas pas te faire des images taillées et te prosterner devant elles. C'est une relation de l'homme avec Dieu. Tu ne dois pas prononcer le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. C'est une relation de l'homme avec Dieu. Tu dois te souvenir du jour du repos, le jour de sabbat. Parce que l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il a créé, il se reposait. C'est une relation de l'homme avec Dieu. Tu dois respecter ou honorer ton père et ta mère. C'est une relation entre les hommes. Tu ne dois pas tuer, c'est entre les hommes. Tu ne dois pas faire l'adultère, c'est entre les hommes. Tu ne dois pas porter de faux témoignages contre ton prochain, c'est entre les hommes. Tu ne dois pas convoiter les biens de ton prochain, c'est entre les hommes. Et Jésus, en Matthieu, il a résumé ses commandements, les 10 commandements. Il a résumé ça à un seul qui est l'amour. mais aussi qu'il a subdivisé en deux. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de ton âme, de ta force, de toutes tes pensées. Si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Si tu aimes l'Éternel, tu ne vas pas te faire des images taillées. Si tu aimes l'Éternel, tu ne vas pas prononcer son nom en vain. Si tu aimes l'Éternel, tu vas te souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Et le deuxième, Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas honorer ton père et ta mère. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas les tuer. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas convoiter sa femme ou ses biens. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas commettre l'adultère avec lui. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas porter de faux témoignages contre lui. Et donc, nous sommes appelés à ne reconnaître que le Dieu suprême, le Créateur du ciel et de la terre. Hier vendredi, nous avons parlé du sous-thème « Rester fidèle jusqu'au bout ». Rester fidèle jusqu'au bout, apprendre de Christ et de premiers chrétiens. Et nous avons compris que le travail que Dieu avait donné à son Fils Jésus-Christ ce n'était pas un travail facile. Un travail où même le Fils, le jour qu'il a été crucifié, il s'est écrié, il a constaté l'abandon du souverain. Il a constaté que Dieu l'a abandonné et il a posé la question, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est allé jusqu'au bout, sous la volonté de ce grand Dieu, de ce Dieu souverain. Il a été tenté par le diable, mais il a dit, il est écrit, il n'est pas permis d'adorer un autre Dieu, sauf ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Nos prédécesseurs dans la foi, les disciples de Christ, les disciples des disciples de Christ, les disciples des disciples des disciples des disciples de Christ, ils ont été aussi confrontés à des souffrances à cause de leur foi unique. Nous avons compris que lorsque vous croyez en Christ, lorsque vous marchez avec le Seigneur, votre foi doit être unique. Il ne doit pas y avoir des ambiguïtés dans votre foi. Et tout le monde qui te verra doit directement se dire qui tu es. Et c'est pourquoi nous sommes toujours appelés à marcher avec les seuls grands dieux. Nous avons parlé de Dieu redoutable, mais ce Dieu-là, c'est aussi un Dieu miséricordieux. Vous voyez, depuis que j'ai commencé, nous n'avons pas encore lu la Bible, parce que ce que nous allons faire ce soir, c'est seulement lire la Bible. J'ai compris qu'il faut que nous lisions la Bible. Peut-être que vous serez gênés parce que nous allons lire les versets bibliques. J'ai essayé de répertorier les versets bibliques qui parlent de la grandeur de Dieu, la nécessité pour nous de le craindre, la nécessité pour nous de le reconnaître comme Dieu. Mais il n'est pas seulement redoutable, c'est aussi un Dieu miséricordieux. Ces deux faces-là, le Seigneur que nous adorons, il marche avec ces deux faces. C'est Dieu redoutable, c'est Dieu qui punit l'iniquité, mais aussi c'est Dieu miséricordieux. Oui, je sais que nous pouvons nous poser la question de savoir, nous autres, le Seigneur nous demande d'être uniques. Si nous sommes si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. C'est ce que la Bible nous dit. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Mais l'Éternel, le redoutable, lui, il est les deux. Et il marche avec ces deux-là. C'est pourquoi, ne vous lassez pas, nous allons lire, seulement lire, les versets qui sont là. Et quand on aura fini à le lire, on aura fini ce qu'on va faire aujourd'hui. Peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de lire à la maison, mais si vous avez un stylo, vous pouvez le prendre comme ça, vous irez encore relire à la maison. Alors, je vais conduire la lecture, je crois que les amis du média aussi, ils sont prêts pour nous projeter ce verset biblique. Les versets que nous allons lire ne sont pas exhaustifs. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a que ces versets qui parlent de la grandeur de Dieu. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a que ces versets qui disent que Dieu est miséricordieux. Le premier verset que nous allons lire, tenez bien, je dis nous allons lire. C'est la lecture que nous faisons. Tirons attention et ne soyons pas distraits. Exode chapitre 20, le verset 3. Notre verset préféré de la semaine. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce verset vient après la présentation de Dieu qui dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire, je ne suis pas n'importe qui. Exode chapitre 15, le verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique, en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges? Le Deutéronome chapitre 5, le verset 7. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est un verset. Parce que le chapitre 5 du Deutéronome reprend les 10 commandements qui ont été donnés en Exode chapitre 20. En Deutéronome chapitre 6, verset 5 jusqu'à 14, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Peut-être nous savions que c'est la parole de Jésus dans le Nouveau Testament, mais ce verset saute aussi dans l'Ancien Testament. Josué chapitre 24, le verset 18 jusqu'à 24. Ce sont des versets qui parlent de Dieu qui est puissant. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Deux Rois, chapitre 17, le verset 29 à 35. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Ce verset-là parle d'autres nations. Les Israélites reconnaissent, eux, un seul Dieu, mais les autres nations, ils ont fait d'autres dieux. Et donc, lorsque tu apprends à faire d'autres dieux, dans ta vie, tu es considéré comme une autre nation. Et quand la Bible parle d'autres nations, ça parle des gens qui sont incrédules devant le Seigneur. Le psaume 29, 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Le nom de l'Éternel mérite la gloire à cause de son nom. Le psaume 73, 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. C'est aussi la reconnaissance de la majesté de Dieu. Le psaume 81, 9. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Les dieux étrangers, c'est les dieux qui sont en dehors du Dieu de Jésus-Christ qui nous a apporté la vie. Ésaïe 26, 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas. Il n'y aura point de Dieu après Dieu, et avant lui, il n'y en avait pas. Et donc, lorsque nous marchons, nous devons savoir qu'il est l'unique. Ésaïe 44, 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Ésaïe 45, 21 et 22. Déclarez-le et faites-le venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Ça, c'est Dieu qui parle. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Notre comportement aussi amène Dieu à se définir chaque fois pour que nous puissions encore nous rappeler de qui il est dans notre vie. Nous sommes appelés à reconnaître sa majesté dans la vie. Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Jérémie 25, 6. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. L'Éternel prend une décision ou peut-être il dit: je ne vous ferai aucun mal Si vous ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains, se faire des images taillées pour les adorer. Jérémie 35, 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans les pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Ça, c'est Dieu qui parle et il est déçu. Il est déçu du comportement des hommes. Il a envoyé, c'est comme aujourd'hui, il a envoyé ses serviteurs, les serviteurs qui parlent de la parole, mais nous ne les donnons pas nos oreilles. Nous ne sommes pas attentifs à la parole. Nous devons savoir que l'Éternel sera irrité. On revient au psaume 47, 2. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Le psaume 65, le cinquième vers. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Le psaume 66, 3 à 5. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force, de tes ennemis. Tes ennemis te flattent. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. C'est l'adoration, l'attitude que nous, le peuple de Dieu, nous devons avoir. À cause de la grandeur de sa force, les ennemis le flattent. Le psaume 68, le 35e vers. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Le psaume 76, le 12e vers. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Lorsque nous avons fait tous les enseignements au cours de la semaine, nous avons constaté que Dieu, c'est Dieu qui n'aime pas l'orgueil. Et d'ailleurs, la Bible dit, Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Le psaume 99, 3. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Souvent, lorsque nous nous comportons très mal parce que nous connaissons Dieu miséricordieux. Le Dieu miséricordieux qui est capable de nous pardonner lorsque nous allons faire le mal. Et c'est ce que nous disons souvent. Revenez à l'Éternel même si vous avez fait ceci ou cela. Mais n'oublions pas que c'est Dieu juste, redoutable, qui est saint. Nous avons parlé de la sainteté là, au courant de la semaine. Le psaume 145, 6. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Ne peut raconter la grandeur de Dieu que celui qui est à bonne communication avec lui. Parce que si tu parles de la grandeur de Dieu et que tu n'es pas à communication avec lui, la Bible dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Nous avons dit, lorsque tu utilises le nom de l'Éternel par le mensonge, tu le prononces en vain. Et donc, toute personne qui parle même de Dieu aux autres, tu parles de la puissance de Dieu aux autres sans être en bonne relation avec ces dieux. Là, tu viens de prononcer le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Le psaume, le Deutéronome 7, 21, c'est Deutéronome, ce n'est pas psaume. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Le Dieu grand et terrible. Et donc, nous qui avons Dieu, c'est Dieu de Jésus-Christ, nous devons nous frotter ou nous taper la poitrine parce que l'Éternel qui est au milieu de nous, c'est Dieu grand et terrible. Et donc, nous ne devons pas être effrayés par de petites intimidations de ce monde. Deutéronome 28, 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ces livres, si tu ne crées pas ces noms glorieux et redoutables de l'Éternel, ton Dieu, on ne cherche pas toute l'idée du verset, mais on cherche à reconnaître que l'Éternel est redoutable et ton Dieu. Le verset 59 va donner maintenant ce qui va t'arriver si tu ne reconnais pas que Dieu est redoutable. Si tu n'observes pas ce loi et ce précepte. Néhémie 1, 5. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. C'est dans le verset là, il a deux faces de Dieu. Le Dieu grand et redoutable, mais c'est Dieu aussi qui est miséricordieux à ceux qui l'aiment. Nahum, chapitre 6, 16 et 17. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ça, c'est l'attitude des gens qui ont peur de la fureur de Dieu, qui ont peur de la grandeur de Dieu. Et lorsque le Seigneur agit selon sa justice dans notre vie, il peut agir de façon que nous ayons peur, nous tremblons et nous disons même au moment de tomber sur nous. Au lieu que la fureur tombe sur nous, les hommes, ils disent, au lieu que ce soit la fureur de Dieu qui tombe sur nous, en tout cas, au moins les montagnes. C'est ce que dit ce verset. Nahum 1, non, Apocalypse 6, 16 et 17. Je m'excuse. C'était Apocalypse 6, 16 et 17 que je lisais. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Le psaume 47, 7. Car Dieu est roi de toute la terre, chantez et cantique. Lorsque nous célébrons l'Éternel par des cantiques, par des danses, c'est tout simplement parce que l'Éternel est roi et règne sur toute la terre. Il mérite notre louange et notre adoration. Daniel 7, 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Dieu, dans une autre appellation, on l'appelle l'ancien des jours. Celui qui connaît les débuts et la fin des jours. Alors, on l'appelle aussi l'ancien des jours. Cet ancien des jours, celui qui a vos minutes, je ne peux même pas parler de vos années, ce sont vos minutes, vos secondes, vos tierces, celui qui les tient dans sa main puissante. On l'appelle ancien des jours. Malachie 1, 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand Dieu, dit l'Éternel, un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Je reprends ce verset. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Ce verset touche aussi notre manière de donner, d'offrir à Dieu. Nous allons y parler longuement demain. Dieu n'a pas peur de dire « maudit sois-tu ». Peut-être nous pouvons avoir peur de dire « maudit sois-tu », mais l'Éternel miséricordieux, lui, il n'a pas peur de le dire « si ». Vous allez à l'encontre de ces commandements. Le psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Pourquoi? Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Lorsque nous disons aux gens de battre les mains, nous battons les mains comme si nous venions de faire 10 jours sans avoir mangé. Pendant que nous le faisons pour le Dieu qui est redoutable. Il y a d'autres aussi qui partent très loin dans leur imagination, et ils disent, nous sommes des baptistes, nous ne pouvons pas danser, nous ne pouvons pas faire ceci. L'Éternel est redoutable, il nous appelle à pousser des cris de joie chaque fois que nous sommes devant lui. La louange et l'adoration que nous faisons ici, chaque dimanche, en fait, la façon dont il loue, exprime aussi le niveau dans lequel tu prends Dieu, c'est Dieu redoutable. Il y a quelqu'un qui avait envoyé un message je ne veux pas citer son nom parce qu'il est ici. Il avait envoyé un message dans un groupe intitulé « Mon pasteur m'a déçu ». Le pasteur finit la prédication, il parle de la bonté de Dieu, mais lorsque ce sont les choristes qui vont nous dire de chanter et de danser à cause de la bonté de Dieu dont le pasteur vient de parler, le pasteur reste sur place. Il ne bouge pas. On ne sait pas s'il bouge dans les cœurs. Les cœurs, nous, on ne voit pas comment les cœurs bougent là-bas. Il faut bouger devant cet Éternel des armées. Il faut danser. La Bible dit que le roi David s'était trémoussé. Il s'est trémoussé. Devant la grandeur de Dieu, il ne faut pas voir votre grandeur. Parce que la grandeur de Dieu est au-dessus de toutes les grandeurs qui peuvent être dans le monde. C'est pourquoi demain, il faut que nous dansions. Nous les pasteurs, C'est nous les pasteurs qu'on accuse souvent. On dit que nous ne dansons pas. Nous dansons comme ça. Non, non. Quand mon âme bénit l'Éternel, il faut que ça se traduise par mon corps. C'est pourquoi nous devons danser quand nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Néhémie. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde. Ah, ça j'avais déjà lu, je crois. Le psaume 66, 5. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Je peux lire Matthieu chapitre 28, verset 18. Je peux aller quand même dans le Nouveau Testament. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est Jésus aussi qui se présente devant ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire tout ce que vous pouvez reconnaître de Dieu, tout ce que vous avez appris de Dieu le Père, c'est entre mes mains maintenant. Et donc, lorsque vous adorez, vous m'adorez aussi. En Philippiens 2, 9, 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je ne comprends plus aujourd'hui pourquoi nous ne demandons plus aux gens de s'agenouiller lorsque nous faisons la prière d'adoration. Est-ce que c'est parce que nous avons des honorables dans notre assemblée? Est-ce que c'est parce que nous avons des... Je crois que ça commence peut-être à partir du moment où la Sébeka avait dit au pasteur de chaque fois s'habiller de vestes blanches. Quand vous habillez de vestes blanches, vous dites, bon, est-ce qu'il faut que je dise aux gens de s'agenouiller devant l'Éternel pendant que moi aussi, je ne vais pas m'agenouiller? Nous devons savoir que la grandeur de Dieu dépasse tout ce que nous considérons comme important dans notre vie. J'ai dit, ce qui est dans notre âme, ce qui est dans notre corps, doit se répercuter, doit être visible par notre corps. Les gens ont tendance toujours à dire, tu nabiga magoti yetu ya roho mbele yako, mufalme mwenye uwezo. Roho ilikuwa na magoti siwe. Il faut kupiga magoti physique devant ce grand roi. Parce que c'est lui qui vous avait donné ces magotis-là. La Bible dit que tout genou fléchisse. Tout genou. Il n'y a pas de genou qui ne doit pas fléchir devant le roi des rois. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 4 à 6. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde, et qu'il n'y a que seul Dieu. Peut-être que c'est difficile pour nous de comprendre ça parce que nous arrivons ici à l'église, nous n'avons pas des idoles, mais peut-être demain, nous allons voir à la fin de la prédication de demain, chacun de nous maintenant saura s'il a une idole ou pas. Éphésiens 5, 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Parce que Dieu est redoutable et il a mis une ligne de conduite que nous devons suivre. Nous devons savoir dans notre vie que nous n'hériterons pas ce royaume si nous ne marchons pas avec lui, si nous ne reconnaissons pas sa grandeur. Reconnaître la grandeur de Dieu, c'est faire sa volonté. Philippiens 3, 9. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tous ceux-là qui ont leur Dieu, qui ont leur ventre comme Dieu. Possiblement que nous aussi nous pouvons avoir notre ventre comme Dieu. Et nous sommes capables de faire tout ce que nous pouvons, ne fût-ce que pour faire nourrir notre ventre. Nous donnons une grande importance à notre ventre. Je ne dis pas que c'est mauvais de manger, parce que moi aussi, je mange. Mais lorsque ça nous empêche de reconnaître la place de Dieu, ou ça nous amène à recourir aux idoles pour nourrir notre ventre, là, ça devient grave et difficile. Colossiens 2, 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Nous devons savoir que dans notre vie, nous sommes des gens qui sont dans la course. Nous sommes des athlètes et nous avons un objectif de recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et donc pour y arriver, nous devons reconnaître que nous devons marcher fidèlement avec ce Dieu juste qui va nous donner cette couronne de vie. Si nous nous laissons distraire par d'autres petits dieux de ce monde, nous n'allons pas recevoir la couronne de vie. Premier épître de Jean, chapitre 5, versets 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous qui discutez souvent avec les témoins de Jéhovah qui vous disent que Dieu n'est pas, Jésus n'est pas Dieu, voilà un verset que vous pouvez leur chaque fois opposer. Parce que souvent, nous chassons les témoins de Jéhovah quand nous n'avons pas d'argument. Ils sont là et ils ont beaucoup de versets. Ils nous bombardent avec des versets parce que nous manquons quoi dire, nous les chassons. Sortez d'ici, vous nous dérangez. Non, non. Il faut être en mesure de les convaincre. Oui, oui, il faut aussi défendre votre foi. Si vous croyez que Jésus est Dieu. Il faut être en mesure de le démontrer. Ça, c'est aussi un autre chapitre qu'on pourra peut-être un jour développer. Ce verset ici nous montre que le Fils de Dieu, il est venu, c'est Jésus. Quand il est venu, il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Lorsque nous avons cru en lui, lorsque nous avons reconnu qu'il est venu pour nous donner la vie, nous sommes entrés dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, il y a un point là-bas. La dernière phrase dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Apocalypse 19, 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Ça, c'est un ange qui parle, que Dieu envoie. Et lui ne reconnaît pas sa... Deutéronome 4... 31. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera jamais. Moi, j'ajoute jamais, mais c'est point. Qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Tenez ici, cette miséricorde est visible dans la vie de celui qui a déjà reconnu cette grandeur. Vous voyez par exemple, la Bible dit, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Est-ce que c'est vrai que l'Éternel ne te détruira pas? Si tu ne reconnais pas sa grandeur, il va te détruire. Mais il est miséricordieux envers toi. Il ne te délaissera pas parce que toi aussi tu veux toujours marcher derrière lui. Deutéronome 4, 30. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Pendant les moments de détresse, l'Éternel nous dit, il ne nous abandonnera pas. Il va écouter notre voix, parce qu'il est Dieu de miséricorde. Quand nous marchons victorieusement avec lui. Exode 34, 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est dans le même livre où on a dit que l'Éternel est très jaloux de ceux-là qui se font des images pour les adorer. Mais ici, c'est une autre face que l'Éternel montre. On dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Lorsque nous prêchons,
nous prêchons souvent seulement. C'est ce que je suis en train de dire ici. On oublie l'autre côté là. Lent à la colère, riche à bonté. Celui qui est lent à la colère, ce n'est pas à dire qu'il n'a pas la colère, il est lent. Ce qui est suspendu, à un moment donné, ça peut encore retomber. Quand on dit que les activités ont été suspendues, c'est différent de dire il n'y aura plus d'activité. Parce que quand c'est suspendu là, c'est suspendu sur une corde qui peut à un moment donné se rallonger jusque. Ça veut dire, quand on dit que Dieu est lent à la colère, ce n'est pas à dire qu'il n'a pas la colère contre ceux-là qui ne veulent pas reconnaître sa grandeur. Lévitique 26, 44. Mais lorsqu'ils seront dans les pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur, jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Ça continue l'idée des lents à la colère. L'Éternel est bon parce qu'à tout moment, avant qu'il n'exécute sa colère, il a toujours un moment de nous le dire. Si nous revenons en Genèse chapitre 4, lorsque Caïn et Abel se disputent, lorsque Caïn a la jalousie contre son frère, l'Éternel lui avait dit, si tu agis bien, ça sera bon. Mais je viens de voir que le mal est à la porte de ton cœur. L'Éternel lui avait dit. Et notre Éternel, c'est ça. C'est comme ça qu'il est. Il est en mesure de nous le dire avant. Et c'est le rôle du Saint-Esprit à nous. Quand le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous dit. Et malheureusement, comme l'homme, son esprit est toujours tourné vers le mal, c'est très facile pour nous de choisir le mal que le bien. Et nous tombons. Lévitique 26, 45. Je me souviendrai à leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. L'Éternel va se souvenir à notre faveur, notre vie. Souvenez-vous, j'ai dit, tous ceux-là qui marchent avec Dieu, ceux-là qui reconnaissent en Dieu le roi des rois, le roi de la terre. Deutéronome 31:6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ici, c'est lorsque les enfants d'Israël, Moïse est en train de mourir et Josué doit prendre la place. Deutéronome, Exode 34, 6. J'ai déjà lu ce verset quand on a parlé de l'Éternel, de Dieu qui est redoutable. Nombre chapitre 14, 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Ça reprend ce qui est en Exode 34, 6. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Même si nous pouvons prêcher la miséricorde et la bonté de Dieu, il ne prend point. Il ne tient point le coupable pour innocent. Tu ne reconnais pas sa grandeur dans la vie, tu ne seras pas innocent devant lui. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Ça devient grave. Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Ah, ça c'est grave. Tu fais le mal, la colère de Dieu va s'abattre sur ta descendance jusqu'à la quatrième génération. C'est un Dieu miséricordieux. Et ça, c'est la justice de Dieu. Mais si vous lisez Exode 20, pour ceux-là qui prononcent son nom en vain, il va punir jusqu'à la quatrième génération, mais il va bénir et il sera miséricordieux pour ceux-là qui vont reconnaître son vrai nom. Il le sera miséricordieux jusqu'à la millième génération. Pour dire que la bonté de l'Éternel est de loin très grande que sa fureur. Et si sa bonté est très grande que sa fureur, que cela ne soit pas l'objet maintenant de ta raillerie. Tu ne dois pas maintenant te moquer de lui dans ton comportement parce que sa bonté est trop grande que la fureur. Mais il faut savoir qu'il y aura un jour où la fureur sera à 100%. De Chroniques 39. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il sa face de vous si vous revenez à lui. Ce verset-là le dit très bien. Si vous revenez à l'Éternel, il ne va pas se détourner, il ne va pas vous détourner sa face. Néhémie 9:31. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnes pas. Car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Il y a beaucoup de versets qui parlent de la miséricorde de Dieu, mais comme le temps que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas aussi un bon temps, nous devons rentrer à la maison avant 18 heures. C'est pourquoi je vais quand même lire trois versets dans le Nouveau Testament qui parlent de la miséricorde de Dieu. Luc 1, 72. Alors vous qui êtes en train de lire, pour bien comprendre certains versets, il faut aller prendre la Bible et lire le verset qui vient avant et l'autre qui vient après, pour bien comprendre ce verset-là. Comme celui-ci. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Quand l'Éternel a conclu une alliance, un accord, une convention avec toi, il se souviendra toujours. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur si réellement tu sais que toi avec Dieu, vous avez une alliance. Parce que le Seigneur, lui, de son côté, il restera toujours fidèle à son alliance. Le chapitre 6 de Luc Le verset 36, c'est une demande. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Dieu qui est miséricorde, il nous demande aussi de l'être. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. L'Éternel, il est bon envers nous. Car il s'est engagé. Il n'y a rien que nous lui avons demandé. C'est lui qui s'engage. Mais il demande seulement que nous soyons réceptifs. Il demande que nous soyons réceptifs. Et de reconnaître qu'il est réellement le seul et vrai Dieu. Et donc dans ces deux faces que nous venons de voir dans les versets bibliques, je n'ai pas lu beaucoup d'autres versets bibliques, l'Éternel, il a une face de l'Éternel saint et juge, redoutable, grand, roi des rois, mais aussi il a une autre face de la miséricorde, une autre face de la bonté. Et c'est pourquoi, lorsque nous marchons avec lui, reconnaissons cela dans toutes les circonstances de notre vie, parce qu'il est Yahweh. Je vais demander à la chorale Nouvelle Semence d'arriver ici devant. Nous allons encore chanter ces cantiques que nous avions chanté, je ne sais pas si c'était avant-hier, en anglais, pour bénir le Seigneur et reconnaître qu'il est réellement le Seigneur. Nous allons tous nous mettre debout pour cette étape de prière.
Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh.
que tu dises merci à la grandeur de Dieu. C'est Dieu-là qui t'a permis d'être ce que tu es. C'est Dieu-là qui est Yahweh et qui t'a sauvé. Qui t'a même permis d'être présent ce soir. Seigneur, tu es Yahweh. Tu n'as ni début ni fin, Seigneur. Par nos termes, nous les humains, nous pouvons dire que tu es Alpha et Omega. Mais ces deux termes montrent un début et une fin. Mais toi, tu es au-delà de l'alphabet. Toi, tu es au-delà de notre vie. Tu es au-delà même de ta création. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es grand. Nous voulons, Seigneur, que tu sois grand dans les cœurs de chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, que tu sois reconnu comme grand et redoutable dans nos familles, dans notre église, Seigneur. Nous voulons que la gloire te revienne, toi seul, Seigneur. C'est possible que nous puissions nous dresser des tours. C'est possible que nous puissions nous dresser des empereurs. Il est possible, Seigneur, que nous puissions avoir l'orgueil. Mais ta parole dit que tu résistes à l'orgueilleux, mais que tu fais grâce aux humbles. Fais à ce que, Seigneur, ton peuple soit humble et que nous puissions t'adorer du jour le jour, que nous puissions t'adorer par notre bouche, que nous puissions t'adorer par notre corps, que nous puissions t'adorer par nos familles, que nous puissions t'adorer par nos biens. Seigneur, prédomine dans la vie de tout un chacun de nous. Sois loué, Seigneur. Sois béni.
You are Yahweh. You are.
Béni soit l'Éternel notre Dieu. Amen.